Pendant un an, Lionel a parcouru les routes australiennes au guidon de son vélo. Il a fait le tour de l'Australie et après plus de 15 000 km et un an de voyage, il nous raconte son aventure au micro de SBS.
J'étais à Perth, c'était l'hiver, il faisait froid et humide. J'avais fait déjà un voyage à vélo de Saint-Brévin-les-Pins à l'embouchure de la Loire jusqu'à Budapest en 2019. Et je voulais m'échapper de l'hiver. Les frontières étaient fermées à cause du Covid. Elles venaient juste de rouvrir entre les régions de WA. Donc je voulais aller où il faisait le plus chaud possible. La frontière étant fermée avec Northern Territory, le plus loin où je pouvais aller, c'était Canonara. C'est à l'extrême nord-est de Western Australia. Donc j'ai pris l'avion là-bas avec mon vélo dans une boîte. L'idée était de revenir à vélo à Perth pour l'été. Donc j'aurais ramené l'été. Ça faisait 3700 km, je crois. Ça devait prendre quelques mois. Quand je suis arrivé à Perth, ça m'a tellement plu que j'ai continué. L'idée étant d'aller jusqu'à la frontière avec South Australia, Eucla. Ça aurait fait en tout 6200 km. Et avant que j'arrive là-bas, la frontière a ouvert. Et finalement, toutes les frontières se sont ouvertes. Je n'ai jamais connu de confinement ou d'obligation de porter le masque. Pour moi, le Covid n'existait pas. C'était juste à la radio, à la télé ou par ma famille ou les amis. Donc j'ai décidé finalement de continuer, de faire tout le tour de l'Australie. Et tant qu'à faire, j'ai rajouté la Tasmanie. Et je me suis dit, il faut que je fasse tous les états et territoires. Donc je suis passé par Canberra aussi. Donc j'ai fait tout le tour. Voilà, et je suis retourné à Canberra au bout d'un an, avec 15 200 km.
15 200 km, ça se fait pas comme ça? Vous vous êtes préparé comment?
Je ne me suis pas préparé. En fait, je n'ai pas de voiture, je fais que du vélo, donc je fais peut-être 30 km par jour. Je danse beaucoup, la salsa et le tango, donc mes jambes sont préparées, c'est-à-dire que je danse jusqu'à 25 heures par semaine, donc je fais pas mal d'exercices. En fait, j'étais tellement peu préparé, même si j'essayais d'avoir le matériel et puis d'être sur les forums où j'ai eu des conseils. Et la seule chose qu'on ne m'avait pas dit, c'est que quand il fait très chaud, il est très important de prendre assez de sel, de chlorure de sodium. Et au bout de 3 jours, j'étais très malade, je n'avais plus de sel dans mon corps et en fait j'étais en train de mourir sur le bord de la route et j'ai dû activer ma géobalise. On est venu me chercher et me ramener à mon point de départ. Donc j'étais dans le désert. Voilà, donc j'étais préparé mais finalement pas tout à fait prêt. Une fois que j'ai compris qu'il fallait boire de l'eau salée plutôt que juste de l'eau, tout s'est bien passé.
On parle de préparation physique mais il y a aussi la préparation psychologique. À quoi vous pensez pendant tous ces kilomètres, 15 000 kilomètres sans voir qui que ce soit, être seul? On est face à soi-même en fait pendant tout ce temps. Vous écoutez de la musique, vous lisez même sur le vélo, je sais pas, qu'est-ce que vous faites?
Il y a des moments où il n'y a rien pendant plusieurs centaines de kilomètres, donc je dois économiser ma batterie, donc je n'écoute pas de musique et je ne lis rien. Ah si, j'avais quand même mon Kindle, j'ai dû lire plusieurs livres de Welbeck, qui étaient assez déprimants en fait, surtout au début. En fait, je regarde le paysage, c'est comme une méditation, c'est de la méditation effectivement, pendant un an. Donc je dis souvent, au lieu de 50 shades of grey, c'est 50 million shades of red dirt, parce qu'en fait, autour, c'est que de la terre rouge, donc c'est assez monotone, les routes sont droites. Il y a quand même des voitures, j'ai commencé par la Gibb River Road, qui est une route assez mythique pour les caravanes. Donc c'est 800 km de ce qu'on appelle de tôle ondulée, Corrugated Road. Je n'étais pas seul finalement, j'ai rencontré des gens tous les jours, les gens s'arrêtaient même pour me demander comment j'allais. Ils étaient surpris, peut-être qu'en rentrant de vacances, ils ont dit à leurs amis « Ah, j'ai vu un cycliste pendant les vacances ». Parce qu'en fait, j'ai vu très peu de cyclistes.
Ah oui, c'est ça aussi, vous avez rencontré combien de cyclistes en total sur plus de 15 000 km?
Peut-être 20. Il y a très peu de cyclotouristes en Australie. En général, ce sont des étrangers, mais comme les frontières étaient fermées, il n'y avait pas de touristes. Donc j'étais plutôt seul sur la route. Ouais. Mais j'aimais ça. Ça m'a permis de faire le point sur ma vie. C'était, je pense, très positif, très utile. Donc quand je suis parti, je vais avoir 52 ans. Cette année seule m'a vraiment aidé. C'est un peu de l'introspection pendant un an.
Vous partez comme ça, 15 000 km. Vous avez des doutes à un moment donné ou pas? Est-ce qu'à un moment, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien autour de moi, aux alentours j'ai 200 km derrière, 200 km devant, je suis seul, j'ai peut-être fait une bêtise. Est-ce que ça vous est arrivé de douter?
Non, pas une fois. En fait, je suis assez têtu. Quand je démarre quelque chose, je dois le terminer. Donc, non, pas du tout. En fait, ma vie était très simple. Je me levais le matin, je partais, je m'arrêtais, je me reposais, je mangeais, je repartais, je me reposais.
Et les conditions météo, vous avez toujours eu du beau temps ou vous avez eu des pluies diluviennes?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense pense que c'est un voyage où j'ai eu énormément de chance. Premièrement, parce que j'ai échappé au Covid. C'est comme si le Covid existait dans mon imaginaire. Et en plus, le temps a été beau presque tout le temps. Un peu chaud au début, dans le nord de l'Australie, jusqu'à 36 degrés, donc je démarrais la nuit et je m'arrêtais le matin. Très vite, à partir de quelques mois, j'ai plus souffert du froid que du chaud. Et quand il a plu, oui, il a plu une semaine quand j'étais en Tasmanie et je suis resté chez les personnes qui m'avaient gentiment invité. Quand il pleuvait, en général, je m'arrêtais, mais il pleut peu, finalement, en Australie. La journée la plus difficile était sur le Nullarbor. Le Nullarbor, c'est une plaine mythique qui fait peur aux Australiens dans leur imaginaire collectif. C'est un endroit où on va tomber en panne d'essence et on va mourir. Mais en fait, il y a toujours des gens, il y a des stations-service qui ne sont pas très rapprochées les unes des autres. Donc ce jour-là, j'avais 70 km à faire avec un vent de face de 45 km/h. Donc c'est le jour le pire et je me souviens que je riais en me disant « mais c'est pas possible !» Qu'est-ce que c'est difficile Mais bon, je savais qu'il y avait une roadhouse qui m'attendait un petit peu plus loin, mais bon, c'est vrai que c'était... Je me souviens d'une journée très difficile, oui. Je suis arrivé épuisé.
Et quelle est la partie d'Australie qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous avez des rencontres particulières qui vous ont plus marqué pendant cette année?
Les endroits que j'ai vraiment aimés, je me suis aperçu que j'adore l'outback, c'est-à-dire le désert australien, donc ces routes où il n'y a rien autour, juste de la terre rouge, un peu de végétation, le ciel en général bleu. Je trouve ça magnifique, je trouve ça bien plus agréable que quand il y a des constructions autour. Donc je ressens la paix intérieure à ce moment-là. Par rapport aux gens, alors j'ai vraiment été touché par la gentillesse des gens. Je pense que c'est le plus important que j'ai rencontré. Alors il faut dire que j'ai fait ce challenge, ce que j'appelle un challenge, aussi pour récolter des fonds pour un organisme de charité qui s'appelle RFDS, Royal Flying Doctor Service, les docteurs volants. Je pense l'organisation caritative la plus réputée en Australie. Alors, peut-être pas dans le sud de l'Australie où il y a beaucoup d'hôpitaux autour de Melbourne ou Sydney, mais plus au Western Australia, Queensland et Northern Territory. Donc comme je récoltais des fonds pour une œuvre de charité, ça m'ouvrait les portes, les gens m'offraient à manger, à boire, m'héberger. J'étais tout de suite accepté comme l'un des leurs. Alors, un jour sur la Gibb River Road, il faisait très chaud, je pense qu'il faisait 36 degrés, ça faisait déjà 4 heures que je roulais, j'avais encore 4 heures devant moi. Sinon, j'aurais rôti sur le bord de la route et je savais qu'il y avait une, ça s'appelait je crois Gibb River Station, un peu plus loin, où j'aurais eu une vraie ombre et de l'eau. J'étais sur le bord de la route, sale, je pense, que je ne m'étais pas lavé depuis plusieurs jours, c'est très sableux. Donc c'est du sable assez épais pendant plusieurs centaines de kilomètres. J'avais l'air épuisé et ce couple charmant s'est arrêté pour me faire un déjeuner. Et je les ai revus plusieurs jours après, avant d'arriver à un camping, et ils sont arrêtés, ils m'ont reconnu. Et la dame est arrivée pour me donner le reste du pudding qu'elle avait fait, qu'elle avait remarqué que j'avais bien aimé. Elle m'a donné le reste de son pudding. C'était des gens charmants et je leur ai dit, donnez-moi votre numéro de téléphone quand je passerai par chez vous. Donc c'est Margaret River, je viendrai vous inviter à dîner. Donc je suis allé les voir plusieurs mois après et je les ai invités à déjeuner parce que c'était pas possible. Mais ils m'ont gardé 3 jours, c'était pour me présenter à leurs amis. Ils parlaient français. Donc c'est la première vraiment qui m'a vraiment marqué. La deuxième personne qui m'a marqué, c'était dans le nord, au milieu du Northern Territory. Il faisait très froid, il devait faire 4 degrés. J'étais dans ma tente, mon sac de couchage et mes habits suffisaient à peine. Vraiment, j'avais très froid et j'entends une voix qui me dit « Vous voulez une couverture ?» Je me suis dit « C'est pas possible, c'est un ange qui vient me voir. » Donc j'ouvre la fermeture éclair de ma tente. Il y avait cette femme qui me dit « Ah, j'ai pensé que vous aviez froid et que vous avez peut-être besoin d'une couverture. » Je dis « Ah oui, s'il vous plaît. » Elle m'a apporté des couvertures. Je trouvais ça vraiment gentil.
Donc c'est une aventure humaine avant tout.
Je pense que c'est avant tout une aventure humaine, oui.
Question un peu plus légère, combien de crevaisons?
Une vingtaine peut-être. Alors je me souviens un jour, Je partais, donc c'est dans Northern Territory, je partais de Cloncurry jusqu'à Mount Isa, donc c'est vraiment au milieu. Et j'ai eu 3 crevaisons, l'une après l'autre, c'est-à-dire que quand je réparais, en fait je continuais, au bout de 100 mètres, j'étais déjà à plat, donc c'est 3 fois, et donc j'ai dû retourner, puis ça m'a pris quand même des heures, parce qu'il fallait que... Parce que j'ai une toute petite pompe, alors j'essaie de trouver une personne avec un compresseur ou une pompe plus rapide, donc je suis retourné à Cloncurry, et le matin quand je suis parti, la même chose, j'ai eu à nouveau 3 crevaisons. Heureusement, j'avais de l'eau, j'ai pu voir qu'il y avait 3 trous. Donc j'ai dû rouler sur du verre cassé. Et donc j'avais 6 trous dans ma chambre à l'air.
Pour pouvoir réparer votre vélo pendant tout le long de votre périple, je suppose que vous avez du matériel, vous aviez votre tente, sac de couchage. Est-ce que vous avez une idée du poids du vélo, de tout le matériel que vous avez embarqué ?
Oui, alors il me fallait beaucoup d'eau. Donc j'avais à peu près 12 litres d'eau. Et j'avais de la nourriture pour plusieurs jours en général, peut-être 5 jours. Tout compris, c'était 45 kilos. Donc ça, c'est lourd.
Face au vent, à 45 km/h.
Voilà. Mais bon, l'Australie est en général plate. Sauf la Tasmanie, qui n'est plate que sur la carte. Et j'ai fait tout le tour, de Canonara jusqu'à Perth. Après, à partir de Perth, j'ai fait le Mundabidi, qui est une piste de 1000 km pour les vélos, qui va jusqu'à Albany. C'est la plus grande longue piste VTT du monde, c'est ce que disent les autres. Et après, je continue jusqu'à Espérance, j'ai traversé Nullarbor Harbour jusqu'à la Eyre Peninsula. Je suis allé à Port Lincoln, après, je suis allé à Adélaïde. J'ai continué, j'ai fait la Great Ocean Road jusqu'à Melbourne. Après, j'ai traversé en ferry, j'ai fait le tour de la Tasmanie. Je suis allé à Bruny Island, en Tasmanie. Après, j'ai continué, j'ai pris le Hume Highway. Alors, quand on part de Melbourne jusqu'à Sydney et au nord, on doit traverser une chaîne de montagnes qui est Great Dividing Range. J'ai voulu prendre la partie la plus plate. Et le Hume Highway, c'est une autoroute qui est vraiment plate, très large. Il y a une bande d'arrêt d'urgence très large. C'est vraiment très sûr, bon, un peu bruyant. C'était surtout quand... Je crois que c'était vendredi de Pâques, il y avait énormément de voitures. Et Canberra-Sydney, donc en passant par le Royal National Park. Et à partir de Sydney, j'ai continué au bord de l'eau, où c'est de la piste. Donc les voitures passent pas, elles prennent l'autoroute. Moi, j'ai continué au bord de l'eau jusqu'à la frontière avec le Queensland. Et à partir de Queensland, donc c'est vers Gold Coast. Alors là, j'ai pris le train parce qu'on m'a dit que c'était très dangereux. Et c'est vrai, il n'y a pas de toit pour les vélos. Donc j'ai pris le train un peu avant Brisbane jusqu'à Sunshine Coast. Et là, je suis remonté jusqu'à Rockhampton. Et là, j'ai traversé jusqu'à... ça s'appelle Three Ways. C'est l'endroit où ça s'appelle Capricorn Highway, rencontre le Stuart Highway. Et là, donc, je suis allé jusqu'à Catherine et de retour à Canonara.
Vous arrivez, vous avez envie de repartir ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Au bout d'un an?
Oui.
Ah, au bout d'un an, je me dis non, ça suffit. Vers la fin, j'en avais un peu assez. Je me dépêchais de terminer parce que un an c'est long, 15 000 km c'est long. Après on a le choix, je veux dire, si on a fait 15 000 km et qu'on continue, on va continuer de pédaler toute sa vie. Et je me suis dit non, je vais retourner à une vie normale.
Vous faisiez combien de kilomètres par jour?
Juste, le maximum c'était 188 km, c'était de Ravensthorpe jusqu'à Espérance. J'avais une tempête derrière moi, donc on m'a bien poussé. Donc 188 km, c'est pas mal.
Merci beaucoup Lionel de nous avoir fait partager votre aventure extraordinaire. Et c'est une belle aventure avant tout humaine. Encore merci Lionel d'avoir accepté notre invitation sur SBS.
Merci.